Bienvenue à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique et à la réalisation, comme d'habitude, mon vieux complice Léo et votre serviteur Andrés Atenza. En direct du studio Gisèle Halimi, aujourd'hui parmi nous, Stéphanie Gabernet et Véronique Chat, deux fondatrices de Caliva. Partagez, veillez et protégez. Soyez les bienvenus.
Merci.
Merci.
Nous allons parler de votre projet Caliva. Tout le monde en parle d'ailleurs. Il suffit de se promener dans les réseaux. Stéphanie Gabernet, Madame Véronique Chat, vous avez des amis qui likent, comme on dit, qui vous mettent des commentaires dans les réseaux. Bravo, félicitations. Vous avez créé. Alors, vous avez créé. C'est pas une association, c'est une entreprise sociale avec une démarche particulière. Vous dites entrepreneuriat éthique et solidaire. Alors, ça veut dire qu'a priori, il y a des entrepreneurs qui ne seraient pas éthiques ni solidaires, c'est-à-dire totalement inéthiques, pas de morale. Ou alors, est-il rentable d'être éthique, Madame Gabernet? Pourquoi vous avez créé ça?
Alors, la question de l'éthique, je ne sais pas si on est rentable quand on est éthique, mais ce n'est pas l'objet de notre entreprise. On est une entreprise effectivement de l'économie sociale et solidaire, mais on est surtout une entreprise qui a un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui vient quand même contraindre grandement la rentabilité de notre entreprise. Donc quand on parle d'éthique, c'est de ça dont on veut parler, c'est-à-dire la possibilité d'être en entrepreneuriat social dans un modèle entrepreneurial et donc avec une associée, avec Véronique Chat, mais en même temps d'être sur une base éthique du travail et qu'on n'est pas là pour faire du commerce, du social, mais bien pour essayer d'y répondre avec ce qui nous semble adapté au niveau de l'éducatif et de ce qu'on s'est porté et de ce qu'on porte depuis quelques années.
Alors, Caliva, C'est quoi ce nom? D'où vient-il? Je pense que ça doit être un nom qui vient d'ailleurs.
Alors,
Véronique.
Caliva, c'est un nom. On est parti au début sur l'idée des cabanes parce qu'on souhaitait effectivement. On a travaillé dans des associations plutôt de taille. Pas des grosses associations, mais plutôt de taille importante,
moyenne.
Et on voulait aller vers du plus petit. Et donc, l'idée de cabane était dans nos esprits, parce que dès le départ, Caliva, pour nous, c'était pas une seule activité, mais plusieurs. Et donc, on avait imaginé des cabanes pour grandir, qui correspondaient au lieu de vie, des cabanes pour apprendre, qui correspondaient à l'activité formation, et des cabanes
pour se retrouver,
qui correspondaient au lieu parents-enfants. Bon, déposer un nom qui s'appelle cabane, on était tout de suite associés aux cabanes perchées, à tout ce qui est de dehors du tourisme. Donc, on a cherché ailleurs. Et je crois que c'est le compagnon de Stéphanie qui a trouvé chez les Grecs ce mot de Caliva qui tout de suite nous a beaucoup
plu.
Voilà.
Et vous avez démarré.
C'est ça.
Donc, vous êtes résolument petit. Et vous,
tout à
c'est
fait.
C'est un choix, pourrait-on dire, un choix stratégique.
Oui.
C'est-à-dire, dans la création, nous souhaitons. Alors, expliquez-nous vos activités. Vous accueillez des enfants en lien avec le conseil départemental. C'est les enfants de l'action de l'ASE, aide sociale à l'enfance.
C'est ça.
Ou d'autres enfants, ou d'autres personnes. Expliquez-nous comment on arrive chez vous.
Alors, on arrive à Caliva à travers différents chemins en fonction de l'activité dont on parle. Donc, pour commencer, l'activité principale est l'activité de lieu de vie et d'accueil. Donc là, effectivement, c'est un accueil pour des enfants qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, principalement du département de la Haute-Garonne, et donc qui nous sont orientés par l'aide sociale à l'enfance.
Vous en avez combien aujourd'hui?
Donc on a une autorisation.
Vous êtes rempli, autorisation, voilà.
On a une autorisation pour 7 enfants en continu et on a 3 places réservées pour des accueils fratries. Parce que dans notre projet, il nous semblait important d'avoir ces places d'accueil pour des enfants qui sont confiés sur des lieux différents, sur des MEX, des placements familiaux, et qui se retrouvent sur des temps de week-end et de vacances sur le lieu de vie et d'accueil de Caliva.
8 personnes, et ça peut monter un peu plus si par hasard, non. Là, vous essayez de maintenir...
Oui, on reste sur... et l'objectif, c'est de rester sur ces 7 places d'accueil et pas en avoir d'autres supplémentaires.
Ce lieu de vie se trouve...
À Muret.
À Muret, donc proche, on peut dire, de la banlieue toulousaine, de la grande métropole toulousaine. Mais vous avez également un projet d'ouvrir un autre lieu de vie, me semble-t-il.
Oui.
Une autre ville du département ?
Alors, pas très loin, on ouvre un second lieu de vie la semaine prochaine, sur Seyss, où là, on accueillera des enfants, toujours de la protection de l'enfance. Il y aura 8 enfants accueillis sur des tranches d'âge plus petites, à la demande du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur une tranche d'âge entre 4 et 11 ans. Sur Muret, on a des enfants avec une autorisation entre 6 et 18 ans.
Alors, pourquoi l'ASE vous oriente des enfants alors qu'on sait qu'il y a dans le département des maisons d'enfants à caractère social reconnues, qui ont pignon sur rue, pourrait-on dire, avec des agréments importants? Qu'est-ce qui vous singularise? Que cherche éventuellement la puissance publique et le département en disant « ces jeunes, je préfère les mettre à Caliva, dans la cabane
» Peut-être je vais répondre. Ce qui nous singularise, et c'est ce qu'on est allé porter comme projet auprès du département, c'était, toutes les deux, on a longtemps travaillé en protection de l'enfance, on sait la réalité de certains enfants qui sont dans des parcours avec de nombreuses ruptures de placement, et il s'agissait de pouvoir proposer à ces enfants-là un lieu qui garantisse, en tout cas qui essaie, de façon différente, de garantir une continuité dans leur parcours. Donc, ce qu'on a imaginé pour ce lieu de vie, et pour ces lieux de vie, puisque ça va être sur le même fonctionnement à Seyss, c'est un accueil qui alterne des temps en famille d'accueil, dans des familles d'accueil que nous recrutons, et sur un petit collectif. Et donc, les enfants circulent entre des temps où ils sont dans leur famille d'accueil et des temps où ils sont sur ce collectif, avec une continuité éducative d'une équipe qui travaille ensemble. On a été beaucoup confrontés, on a eu à faire beaucoup de dispositifs où les enfants circulaient d'une institution à l'autre, et ces dispositifs tenaient jusqu'à ce qu'une des institutions se désengage et où à nouveau on se retrouvait dans des difficultés pour accueillir ces enfants-là. Donc c'est sur cette singularité des problématiques de ces enfants avec des gros troubles d'attachement et des manifestations importantes de ces troubles qu'on a fait cette proposition d'offre au département et qu'il a...
Le département vous a suivi de suite? Pas eu de difficultés majeures, ou il y a eu un peu... Dans le langage de la rue, on dit souvent que la création est une sorte de galère. Est-ce que vous avez galéré?
Pas forcément. Plus avec le département, là où le département a...
Ou l'administration de manière générale, pourrait-on dire. On n'a pas simplifié, on n'est pas encore dans le choc de simplification.
Non. Par contre, le département a été très vite, a trouvé très vite que le projet était pertinent. Par contre, et je pense que Stéphanie aura, on va pouvoir en parler avec vous, c'est sur la structure de Caliva qu'ils ont tiqué, puisque c'était de l'entrepreneuriat qui rentrait dans la protection de l'enfance, autant du côté des personnes âgées, il y a des choses qui existent déjà.
Qui existent déjà, des EHPAD, des monde capitalistique, voilà. Etc.
Et donc,
pour le faire très court.
Pour le dire très... on ne dévoile pas un secret. Très clairement, quand on s'est assis à la table, les gens qui étaient autour de cette table avaient lu notre projet et nous ont dit, votre projet, il nous plaît, mais il faut que vous soyez une association.
D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez répondu?
Et alors, à ce moment-là, sans s'être concerté, parce qu'on avait, on pensait pas que la question arriverait sous cette forme-là, on a dit que pour nous, c'était très clair que ce n'était pas une association qu'on voulait se mettre, parce qu'il n'y avait pas un mouvement associatif derrière ce projet, que c'était vraiment nous deux qui l'avions pensé, et que la forme entrepreneuriale, on l'avait déjà expérimentée, nous donnait une marge de manœuvre beaucoup plus réactive, et on l'a expérimenté tout au long et encore aujourd'hui, avec une prise de risque aussi qu'on avait toutes les deux en tant qu'entrepreneuse, et qu'on ne pouvait pas faire porter, par exemple, à un président d'un conseil d'administration, ou dont on ne pouvait pas se garantir d'avoir toujours un conseil d'administration qui nous suive dans ces prises de risque-là.
Donc là, vous avez pris une prise de risque, vous êtes allé voir votre banquier, éventuellement pour dire, voilà, on doit acheter quelque chose, nous devons créer, et donc démarche d'entrepreneuriat tout à fait classique, sauf que là, vous êtes dans le solidaire, dans l'éthique, quand même, dans une certaine humanité, on s'adresse à la protection de l'enfance. C'est quand même différent. Combien de personnes travaillent avec-vous ? Donc, vous avez une petite équipe de combien de salariés ou associés ? Alors, aujourd'hui, vous êtes les fondatrices, donc associées, et vous avez ensuite des salariés.
C'est ça.
Alors, combien de salariés aujourd'hui ?
Donc, sur Muret, on a 12 salariés.
Donc, c'est une petite PME, hein ?
Et oui, surtout qu'on va avoir 12 salariés à Seyss dans une semaine. Donc oui, ça fait un certain nombre de salariés. On n'est que toutes les deux associées. Et on est petit parce qu'en fait, on n'a pas de support.
On fait tout. Pourrait-on dire souvent, l'artisan.
C'est ça, c'est la petite entreprise.
C'est la petite entreprise, vous êtes dans l'artisanat de la protection de l'enfance. C'est peut-être ça la singularité, non ? Y compris avec les jeunes que vous recevez, ils disent, mais tiens, c'est pas le gros truc, c'est pas la grosse mec, c'est... Est-ce qu'on peut vous associer à une sorte de proximité de famille ?
Ça fait une proximité, effectivement. Il y a un sentiment d'appartenance à Caliva, on le voit vraiment avec les enfants qui sont chez nous depuis un an et demi. Nous aussi, on voulait... retrouver ça ou trouver ça. Enfin, on a essayé quand même d'être toujours en proximité des enfants et des équipes qu'on a accompagnées. Mais on avait vraiment envie de... Enfin, voilà, on se disait soit on part sur du plus gros et on va vraiment perdre cette proximité, soit on va sur du plus petit et on va le gagner encore plus. Donc, il y a effectivement un sentiment d'appartenance. Il y a des solidarités. C'est vrai que l'engagement des salariés n'est pas le même que dans... une structure ordinaire. On a le mari de telle assistante familiale qui vient nous couper, nous tailler les. On a, enfin voilà, c'est
donc il y a de la solidarité autour de cette proximité qui se met en œuvre.
Et c'était
et donc vous partagez avec eux ou ils partagent avec vous la même aventure quoi de la création.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Quand on embauche, on dit bienvenue dans l'aventure Caliva, mais je crois que c'est une vraie aventure. Et les enfants, ils en tire, il nous semble, des bénéfices de voir des adultes qui s'écoutent, qui se parlent, qui ne sont pas sur les mêmes fonctions, mais en même temps qui sont là pour les accompagner. Et ils arrivent bien à percevoir, en fait, quand on est présente avec Véronique sur des temps où ils ne nous attendaient pas forcément au début, parce que ce n'est pas une place d'une directrice ou d'une responsable. Mmh. Et en même temps... ça permet de penser la clinique éducative autrement. Et je crois qu'on avait besoin de ça aussi en créant, c'est de repenser une clinique éducative qu'on avait un peu perdue peut-être dans nos pratiques.
Vous avez donc des salariés, c'est moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, psychologues, donc tout à fait classique. C'est-à-dire vous garantissez la sécurité des enfants du point de vue clinique comme du point de vue de la santé quoi.
On a fait le choix pour les lieux de vie et d'accueil, il n'y a pas d'obligation d'avoir des personnes salariées diplômées. Nous on a fait le choix d'une qualité de la prise en charge et il nous semblait que ça passait par des diplômes aussi et des compétences acquises par les salariés qu'on allait embaucher. Donc on a des moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, maîtresses de maison qui ont aussi une fonction de veille. Et ensuite, on a des assistants familiaux. Et ensuite, on travaille avec une psychologue, mais avec qui on a créé un partenariat, parce que nous n'avons pas les moyens financiers d'avoir une psychologue...
À plein temps.
Sur site. Mais par contre, c'est une psychologue qui travaille à l'aide sociale à l'enfance, donc il y a une connaissance aussi du parcours de ces enfants et des enjeux autour des liens d'attachement. Donc, on a créé ça et on crée aussi, vous dites, voilà, sur les réseaux, on est connu, on est liké, mais en fait, on essaie surtout de créer un réseau autour de Caliva. On se dit que on ne peut pas tout faire, nous, on ne sait pas tout faire, et on vient s'appuyer aussi sur des personnes à l'extérieur qui font de la médiation animale, qui font du coaching sportif, qui font de l'équithérapie, des psychologues, et ensuite tous les, enfin, des psychomotes, des orthophonistes. C'est recréer aussi autour de l'institution une équipe un peu entière, mais qui n'est pas forcément des salariés.
Vous appliquez la loi de 2002.
Oui.
Et puis, il y a une singularité, parce qu'il y en a, donc on va essayer de le citer. Il y a le conseil de la vie sociale, mais là, vous dites, nous avons un conseil de la vie quotidienne. C'est-à-dire, vous apprenez les enfants à délibérer, donc vous réunissez réellement tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les deux jours, quand vous dites conseil de la vie quotidienne. Ce n'est pas le conseil de la vie sociale. C'est peut-être mieux que conseil de la vie sociale.
Alors, c'est, vous avez lu les éléments du projet de service. Donc, on est encore à l'ordre de projet. C'est-à-dire que D'accord. C'est une envie, c'est un désir, effectivement, d'en arriver là. Donc, il y a des moments souvent plutôt de crise, enfin, à la hauteur de la vie d'un enfant, où on a réuni les enfants et où on les a amenés, effectivement, à échanger, à dire leur ressenti, à dire comment ils verraient évoluer les choses. C'est quand même un lieu dans lequel on est très ajusté aux besoins des enfants et où l'organisation se construit autour des besoins des enfants. Donc, finalement, leur avis... on n'a pas besoin de se réunir pour leur demander leur avis.
Ils l'expriment.
Il est sans cesse, sans cesse sollicité. D'ailleurs, pour certains, au départ, avec étonnement qu'on entende leur demande et qu'on y réponde dans la mesure où c'est de l'ordre du totalement raisonnable. Mais par contre, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a envie vraiment de développer et de continuer à discuter, à mener les équipes, à travailler sous cette forme-là. Pour l'instant, c'est encore de l'ordre plus du projet et de la volonté que d'une réalisation.
Vous accueillez également des parents. Ils viennent, vous dites, il y a un espace, donc avec plus de facilité. Ça aussi, c'est peut-être différent par rapport, c'est-à-dire structure moyenne ou grande, type MEX. Oui, les parents peuvent peut-être, quand c'est autorisé, peuvent venir plus facilement, vous les solliciter. Et cette rupture avec les parents ne se perd pas de la même façon, en prenant toutes les précautions. Bien entendu, Stéphanie, vous dites...
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on laisse quand même la question du lien avec les parents à l'aide sociale à l'enfance.
Bien sûr.
C'est leur mission, principale et c'est ce qui permet de faire tiers dans la relation aussi et de trianguler. Il nous semble que c'est important. Par contre, on a laissé un espace aux parents sur des temps qu'on appelle les cafés des parents, à peu près une fois toutes les 6 semaines, où on convie l'ensemble des parents pour échanger autour du projet de Caliva et de ce qui se passe.
Ils viennent, les parents, assez volontiers ou forcer un peu ?
Alors, on ne force pas, mais du coup, ça a pris du temps pour qu'ils viennent. Mais on a réussi à mettre en place des groupes où des parents sont venus sur les fêtes de fin d'année, ce qu'ils ont souhaité. Parce qu'en fait, ce qu'on fait faire, c'est qu'on fait faire des gâteaux durant le week-end aux enfants. Ça permet, après, c'est le lundi après-midi, et ça permet... aux parents de pouvoir manger sur le temps du goûter les gâteaux qu'ont fait les enfants à leur attention. Et en fait, les parents ont demandé à faire des présents pour les fêtes de Noël à leurs enfants. Et donc, on a un peu...
Ces cafés parents, c'est vous qui les animez, Véronique?
Non, c'est
Stéphanie,
ce sont
vos
professionnels? Une éducatrice et une assistante familiale qui
les
animent.
Mais vous participez, vous aussi, ou
non,
pas
Non, nous,
pas
on
du
les
coup.
Rencontre de façon plus formelle autour du projet de l'enfant. Mais on laisse ça aussi...
à vos professionnels.
Voilà, aux professionnels. Et on essaie que ce soit le moins institutionnalisé possible aussi, qu'il y ait plutôt une spontanéité dans les échanges... que notre présence, parfois, pourrait empêcher. Ce qu'il y a aussi de particulier à travers ce café des parents, c'est que, pour certains parents, c'est la première fois qu'ils voient le lieu dans lequel dort leur enfant. Et donc, ils ont plaisir à remonter voir dans la chambre ce qui a évolué d'une fois sur l'autre, de voir qu'il a mis une photo d'eux, quand c'est le cas, parce qu'après, les enfants sont pas obligés, bien sûr, de mettre des photos de leurs parents. Mais enfin, voilà, des petits bouts de vie aussi qu'ils viennent capter. Et l'idée, c'était... Enfin, nous, ce qu'on pensait, c'est que ça permettait à ses parents de penser l'enfant en dehors des temps de présence de l'enfant, ce que souvent ses parents ont beaucoup de mal à faire. Et là, c'était leur donner aussi des petits outils pour qu'ils arrivent à penser leur enfant en dehors des temps où ils le voient.
Avant d'aller plus en avant, je vous propose une pause musicale. Alors là, je vous propose Françoise Hardy et Alain Bachung, un duo. Que reste-t-il de nos amours ?
Qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois,
les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre. Se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Esprit Occitanie au studio Gisèle Halimi, votre émission Sentinelle d'Humanité avec Stéphanie Gabernet, Véronique Chat, Kaliva, la cabane en grec, petit lieu de répit pour accueillir des enfants, de l'entrepreneuriat social, éthique et solidaire. Alors vous parlez d'un réel désir d'inclusion. Alors, tout le monde parle de l'inclusion, hein. Je ne voudrais pas dire, c'est peut-être un peu la tarte à la crème. Alors, quand vous dites un réel désir d'inclusion, qu'entendez-vous par là? Et quels sont les éléments, les actions que vous mettez en œuvre pour, en effet, ce désir se transforme en véritable action? Stéphanie, Véronique, qui démarre?
Alors, je commence. alors, sur la question de l'inclusion, c'était juste commencer. Les lieux de vie et d'accueil sont souvent dans la campagne, dans le département, beaucoup dans le Comminges, au Vert. Et nous, on avait envie d'inclure ces jeunes dans la cité. Donc, on est en cœur de ville. Et ça, il nous semblait que c'était le premier...
Muret est une ville dynamique. Hein. Oui. Il y a les commerces, du théâtre, il y a une vie, quoi.
Oui, il y a une vraie vie. Il y a des activités. Les enfants peuvent, en fait, vaquer comme les autres enfants dans Muret, parce qu'ils commencent à grandir maintenant aussi. Et ça, c'était notre souhait. Ça, c'était la première inclusion. Et c'était vraiment la question de l'inclusion dans la cité avec quelque chose de très discret. Souvent, les gens nous disent « Ah, ben on ne savait pas que c'était un lieu d'accueil pour enfants parce que c'est une maison ordinaire. Hein. »
Vous êtes propriétaire, question annexe?
Non, on est en location.
Vous êtes en location?
On est en location. On a, oui, des propriétaires qui nous ont suivis sur ces projets-là.
Et vous ont suivi parce que souvent, les propriétaires sont aussi, dès qu'on dit... la protection de l'enfance, les enfants difficiles, vous avez l'image, les représentations que nous faisons. Là, les propriétaires vous ont suivi sans trop de difficultés.
C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, il y a une partie commerciale qu'il ne faut pas oublier.
Qu'il ne faut pas oublier.
Et voilà, je crois que Stéphanie a cette fibre-là.
On a vendu le projet, vraiment, mais parce que je crois qu'on y croit. On y croyait à notre projet, et là, sur ça, c'est pareil. On a trouvé des locaux en location, une superbe maison, parce qu'on avait envie d'accueillir les enfants dans des beaux lieux, parce qu'il nous semble que c'est important, pour se sentir bien aussi. Et qu'on se dit toujours, si nous, on s'imagine et on pourrait y habiter, ça veut dire que les enfants qu'on accueille, il n'y a pas de difficulté pour eux. Donc, pour revenir à la question de l'inclusion, il y avait déjà cette première inclusion dans la cité. Et ensuite, c'est de pouvoir dire faire comme les autres, faire comme les autres enfants. Il me semble que c'est ça, l'inclusion. Effectivement, on en parle beaucoup. Les enfants qu'on accueille, ils ne sont pas tous sur de l'inclusion scolaire parce qu'ils présentent des troubles et qu'ils sont parfois pris en charge sur des structures qui relèvent du médico-social. Mais en même temps, on tente de leur faire faire, et on arrive, c'est pas que tenter, faire des activités extrascolaires, comme les autres enfants, où ils souhaitent aller en fonction d'activités culturelles, sportives. Et ça, il me semble que c'est ça la question, il nous semble que c'est ça la question de l'inclusion. Mais
est-ce que vous avez présenté également votre projet, parce que vous venez de parler, Stéphanie Gabernet, des enfants qui pourraient relever des structures médico-sociales. Est-ce que vous avez présenté également votre projet à l'ARS? Est-ce que vous êtes allé au-devant des grandes associations du médico-social qui ont des IME, des ITEP? Est-ce que vous avez fait ce type de démarche ou pas? Non.
Non.
Vous, vous restez uniquement avec le lien privilégié du département. Voilà. Et si ces enfants sont placés ou vont le matin ou l'après-midi à l'IME, à l'Institut médico-éducatif ou à l'ITEP, vous les accompagnez, quoi, ou on vient
ça,
les chercher.
C'est ça.
Voilà. Oui. C'est ce type de travail.
C'est des partenariats qui se font autour des projets des enfants.
C'est ça.
Et pas quelque chose qui a été pensé auparavant, mais qui se construit vraiment au fur et à mesure en fonction de chaque enfant. Ce que je rajouterai sur la question de l'inclusion, on est un petit collectif, mais dans ce petit collectif, il y a des enfants qui sont plus en difficulté que d'autres. Et c'est aussi ça, qu'ils aient leur place là, travailler avec les autres enfants pour faire place aux troubles du comportement, aux débordements, à l'étrangeté de certains enfants. Et ça fait partie aussi de l'inclusion dans le sens où c'est aussi comment on s'adapte à chacun dans sa singularité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler et de soutenir auprès des enfants qu'on accueille.
Écologie au quotidien. Alors là, l'écologie au quotidien, ça veut dire quoi concrètement? Les enfants travaillent avec vous? Vous avez des jolis jardins ou c'est simplement la prise de conscience? C'est de mener des actions particulières? Que veut dire cette écologie au quotidien?
Alors, sur la question de l'écologie, ça nous tenait à cœur, mais parce qu'il nous semble aussi
c'est une vraie préoccupation aujourd'hui.
Oui,
on ne peut pas y échapper. Hein.
C'est ça.
C'est le monde dans lequel on vit.
Mmh. Et que les enfants, ils sont sensibilisés et pas forcément les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Alors la première chose sur la question de l'écologie, c'était de dire aussi comment on se déplace, Si on est en cœur de ville, eh bien, on n'a pas besoin de prendre une voiture tout le temps. On est à côté de la gare et on peut aller en train sur Toulouse. Ça, c'était nos premières préoccupations. Et puis, on a un bout de jardin. Donc, notre maîtresse de maison a fait le jardin avec les enfants, a planté. On a mangé des légumes, là, tout l'été. Et puis, maintenant, c'est de développer, d'aller acheter plutôt bio, d'aller auprès de producteurs qui sont sur le secteur du Muretin et engager aussi les enfants dans cette démarche-là, de pouvoir accompagner la maîtresse de maison, d'aller voir que ben, voilà, le poulet, on ne l'achète pas au supermarché. Quoi. Le poulet, il grandit à campagne, dans une ferme, et qu'il y a quelque chose de la sensibilité
vous,
autour
vous
de ça.
Vous créez encore une fois cette proximité avec l'ensemble des partenaires autour de la ville de Muret ou de la ville de Seyss ou autre chose. Quoi.
C'est
donc
ça,
c'est, tout à fait. C'est vraiment ce travail de fond que vous faites.
De territoire, sur la question de l'écologie et de l'éco-responsabilité, c'était ça aussi, c'est de dire on va essayer de rester sur un territoire qui est riche et où on peut aussi arriver à trouver des partenariats et des gens avec qui on travaille, à qui on achète des produits. On a une éducatrice qui tous les 15 jours fait le marché, il y a un grand marché à Muret. Voilà, c'est changer un peu les habitudes et montrer aux enfants qu'on peut faire un petit peu autrement. Et ensuite, aussi les sensibiliser au fait de ne pas faire que... on peut faire des activités qui ne coûtent pas cher, on peut aller se balader, on n'est pas obligé de consommer. Il y a là, vraiment essayer de les sensibiliser
surtout
à ces questions-là.
Surtout que souvent ces enfants-là sont dans la consommation,
c'est ça,
le goût de la marque, on a envie du dernier cri, des dernières baskets.
De faire que des activités
téléphone,
payantes.
Donc ça c'est aussi, et parfois les professionnels aussi sont dans ces habitudes-là, donc il a fallu aussi accompagner les professionnels, enfin c'était des professionnels qui avaient rejoint le projet aussi et qui étaient, enfin voilà, qui portaient ces valeurs, mais il a fallu aussi les guider justement pour pas répondre systématiquement aux demandes des enfants d'être dans des activités, aller faire du trampoline là et sauter... pendant une heure, voilà, quel est l'intérêt. Et donc, de passer à des activités, oui, qui sont plus en dehors de la consommation. Et après aussi, on utilise beaucoup, enfin, on est aussi dans une idée de réemploi, de, enfin, voilà, de choses comme ça. Pas être toujours à acheter du neuf, mais essayer de voir si on répare, si on peut, voilà. Et d'ailleurs, les enfants se font passer maintenant les habits parce qu'ils se connaissent, ils s'apprécient. Et donc, le plus grand, quand il a des super habits qui lui vont plus, il passe à celui d'après qui est tout content de les récupérer.
Donc, vous mettez en œuvre une
c'est
solidarité
ça.
En action avec les mêmes jeunes, quoi.
Tout à fait. De l'économie circulaire à petite échelle.
L'économie circulaire, là, vous commencez. Oui, mais c'est peut-être à petite échelle, ça deviendra grand, c'est cela. Je reviens également sur votre projet. Vous dites, nous avons un triptyque. Hein, j'ai souvenance de ça, donc socialisation, individuation et autonomisation. Et expliquez-nous ce triptyque et comment vous le mettez en œuvre. Alors socialisation, je comprends aisément ce que cela veut dire, mais quand vous parlez déjà de individuation, c'est pas individu, c'est pas l'individualité, c'est pas être égoïste, quoi. C'est autre chose. C'est quoi alors?
C'est faire émerger alors le sujet. Peut-être c'est un peu compliqué de le dire sous cette forme, mais en tout cas faire émerger la singularité de chaque enfant et qu'il puisse se construire, non pas dans quelque chose de préconçu ou que on projetterait sur lui, mais vraiment dans quelque chose qui lui appartient. Et donc là, on voit bien comment les personnalités de chaque enfant émergent. Au départ, elles étaient beaucoup masquées par leurs troubles du comportement. Maintenant, ces troubles persistent, mais pour autant, on voit apparaître les singularités de chacun et les talents aussi de chacun. Et c'est vraiment mettre en avant ces choses-là et accepter, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que le plus grand accepte que le plus petit, ben, aujourd'hui, il n'est pas en forme et donc on va le laisser tranquille. Que le plus petit accepte que le grand, il a besoin d'être tranquille et on va... Enfin, voilà. Vraiment que chacun puisse être le plus possible à son rythme à lui. Après, bien entendu, qu'on se sert aussi du collectif pour travailler le rapport à l'autre, pour travailler... Mais en tout cas, ça part toujours de chaque enfant et de où il en est, lui.
L'individuation serait plutôt une vraie pratique de l'altérité. C'est dans ce
tout
sens que vous, que vous le travaillez. Et autonomisation, c'est pas autonomie, mais c'est quel apprentissage pour arriver à cette autonomisation?
C'est comment les adultes vont accompagner les enfants à apprendre par eux-mêmes. de leurs erreurs, de la manière dont ils pourraient faire, et que souvent dans l'institution, on est pris par le temps, il faut faire vite et on fait à la place des enfants, et sur la question, on tente de les amener à l'autonomie en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais là en fait on leur laisse la place pour qu'ils fassent, pour qu'ils se trompent, et c'est ça cette question-là d'accompagnement. Alors ça prend plus de temps, mais ça permet, et ça permet ce que disait Véronique aussi, qu'il y ait des choses qui viennent se réguler par le groupe, hein, et que certains enfants, les plus grands, puissent venir poser aussi et accompagner les plus petits à faire un certain nombre de choses du quotidien. On est très en lien et on fait beaucoup de choses à partir du quotidien. Il nous semble que c'est riche et que c'est à partir de là qu'on doit travailler la question éducative.
Vous avez créé à quelle date ? Exactement.
Janvier 2022, la création de la société et l'ouverture du lieu de vie, septembre, 1er septembre 2022.
Alors, premier bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de cette création et les personnes que vous avez accueillies
C'est
où en êtes-vous ? Oui, j'imagine,
c'est très positif. Non, c'est très positif. Alors, j'ai un exemple sur les enfants, et je trouve que ça vient quand on parle d'inclusion et d'avancer pour ces enfants. Aux dernières vacances, aux vacances de février, certains enfants ont demandé à être accueillis chez les assistantes familiales, pour aller chez le copain. Donc, ils ont demandé à aller y dormir. Comme s'ils allaient dormir chez un copain. Et donc, on a des salariés qui ont dit, moi, je suis d'accord pour l'accueillir, non pas dans le cadre d'un relais, mais je l'accueille comme si j'accueillais un copain de l'école.
C'est une invitation. Ou le copain qui vient passer une soirée pyjama, comme disent les jeunes.
Exactement. Exactement. Et ça, je crois que c'est vraiment... je pense que ça nous porte, quoi, de se dire que ça y est, là, on entre vraiment dans la question de l'ordinaire. Hein. Et des enfants qui présentaient, il y a un an et demi, des troubles tellement importants qu'on n'aurait jamais pensé qu'aujourd'hui, ils pouvaient, ce que dit Véronique, être dans une question de l'appartenance et pouvoir commencer à construire un quotidien ordinaire d'un enfant de leur âge.
On parle de bilan positif éducatif, il faut toujours parler également du bilan financier, vu le prix pratiqué par le conseil départemental de la Haute-Garonne, pour ne pas le citer. Votre institution, votre entreprise sociale se porte bien, pas de difficultés majeures, bien que vous ayez des contraintes.
Oui,
comme vous avez
non,
dit.
Elle se porte bien. Elle ne fait pas de bénéfices, mais elle ne fait pas de déficit. Donc, on fonctionne bien. On fait attention aux dépenses. On a construit un budget...
Un
budget très serré et vraiment très précis par rapport à ce qu'on dépense. Hein. Et l'équipe aussi et les salariés sont vraiment au clair avec ces questions-là. La question de l'entrepreneuriat, c'était aussi d'aller chercher des fonds ailleurs. Une de nos activités, notre activité lucrative, c'est la question de la formation. Et c'est aussi pour objet...
Vous avez un petit centre de formation ?
Oui.
On peut le dire comme ça.
Tout petit, vraiment petit. Minuscule, hein, microscopique.
Alors là, vous dites un centre de formation. Vous n'avez pas choisi, Véronique et Stéphanie, la facilité, parce que le marché de la formation, pour le dire très rapidement, il est quand même assez chahuté, quoi. Il est hyper concurrentiel. C'est pas facile d'aller sur ce terrain. Et vous y allez quand même.
Oui,
vous allez, bon, mais vous êtes toujours enthousiaste, et encore une fois, parce que vous êtes différente.
Oui, et sous la forme d'une cabane, donc vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est juste aller, on a parlé essentiellement de l'activité des lieux de vie. Pour nous, ça représente 40%, on va dire, de nos revenus à chacune. Donc, il faut bien qu'on aille chercher aussi ailleurs de quoi pas être au SMIC. Tout simplement. Et donc, ça fait partie aussi. On a une certaine expertise dans certains domaines. On a une façon de concevoir le travail social. Oui. Et donc, on avait envie de transmettre ça.
Et vos clients, ce sont les travailleurs sociaux de la région, du département, qui viennent vous acheter des formations ?
Pas que. Non, pas que.
Il n'y a pas de frontière là.
C'est ça.
Vous pouvez aller chercher des clients ailleurs.
Oui. Et enfin, aujourd'hui, voilà, c'est des personnes qui nous interpellent parce qu'effectivement, ils nous ont suivis ou.
Ils ont vu ce que vous.
C'est ça. Et ensuite, c'est du bouche à oreille, hein, parce que c'est petit, on propose peu de choses. Donc les personnes, si elles sont satisfaites de la prestation. Elles en parlent à leur connaissance et c'est comme ça qu'on développe aujourd'hui. On n'a pas encore le temps de trop développer, mais il va falloir s'y mettre.
Vous avez aujourd'hui dans votre catalogue combien de formations à disposition ?
Vous nous posez la question piège ?
Non, c'est pas question piège.
7 ou 8, ouais, 7 ou 8, j'allais dire.
7 ou 8 formations.
Mais 7 ou 8, oui.
Vous les calibrez de la façon suivante, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours de formation.
C'est ça, oui, tout à fait.
Voilà.
De 1 à 3 jours.
De 1 à 3 jours, oui. Voilà, pour que les personnes puissent, notamment des travailleurs sociaux qui viennent, moniteurs éducateurs, voilà. Des dirigeants viennent plutôt se former ? Non, pas du tout.
Alors,
ou des directeurs, peut-être, directrices.
Oui. Alors, sur une formation un peu particulière, on a créé une formation pour accompagner à la création de lieu comme celui qu'on a créé. Comme, voilà. Et donc là, pour le coup, on a...
Là, il y a une spécificité, c'est vous ça, avez oui. un savoir-faire.
C'est et ça. Donc là, c'est plutôt des DG qui étaient sur de grosses associations, pas forcément là, sur le secteur toulousain, et qui nous interpellent parce qu'ils ont envie de créer...
Ils ont envie de créer des lieux...
C'est ça, un peu comme le nôtre. Et donc, on a voilà, plutôt des cadres là, qui viennent nous interpeller pour participer à cette formation-là.
On va continuer tout à l'heure notre conversation, mais je vous propose de partir ailleurs, un peu là, dans les endroits où il fait chaud, quoique déjà dans cette région, il commence à faire chaud. On part dans les îles et je vous propose d'aller aux Caraïbes.
Ya no veo rosas.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Stéphanie Gabernet et Véronique Chat. Nous sommes toujours dans la cabane, mais c'est plus joli de dire Kaliva. En grec, c'est le lieu de partage, on veille et on protège. Et alors là, veillez et protégez, vous avez également des séjours enfants par an. Et là, c'est un projet où c'est déjà l'aboutissement sur la ville de Cugnon. Où vous en êtes de ce projet?
Alors, c'est un projet qui est encore en cours de développement, mais on a commencé des séjours par enfant l'année dernière sur des temps de week-end. L'objectif, c'est qu'on arrive à développer sur des temps de week-end et de vacances au long cours. Sur l'année là, 2024 et puis ensuite pour la suite. L'objectif, c'est d'accueillir des parents pour des temps de répit, sur des temps de répit pour des familles, soit qui viennent dans le cadre de la prévention pour éviter les burn-out parentaux, soit dans le cadre du handicap avec des parents qui ont un enfant en situation de handicap.
Et le répit, c'est quoi? C'est un week-end? C'est trois jours?
Un
c'est
week-end.
Une semaine? C'est le week-end.
Un
vous
week-end.
Privilégiez davantage le week-end.
Du samedi au dimanche.
Au dimanche.
Voilà. Et ensuite, une famille qui vient plutôt sur des questions aide sociale à l'enfance, des problématiques plutôt aide sociale à l'enfance. Et en fait, l'objectif, c'est d'accueillir ces trois types de familles, donc une à chaque fois, le temps d'un week-end sur un lieu à Cugnon. Donc, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place l'année dernière.
Et là, pareil, vous avez loué une villa ou un lieu plus,
donc, en fait,
plus
on
modeste
a...
Non, pas, alors, pas plus modeste.
Non, on a monté un partenariat avec un couple qui gère un gîte plutôt haut de gamme, et donc on réserve des week-ends.
Vous réservez des week-ends.
Voilà, et ils nous font un tarif très préférentiel parce que aussi ils ont trouvé, que le projet était intéressant. Ils avaient envie aussi de le soutenir d'une certaine façon. Et puis, au fur et à mesure qu'on va pouvoir développer ces week-ends, ça peut être intéressant aussi.
Vous avez raison, Véronique Chat, de dire oui, c'est un gîte de haut de gamme. Parce que souvent, on a l'impression que dans la protection de l'enfance, on ne peut pas accéder
à
ce qu'il y a de mieux ou à la qualité.
C'est ça.
Alors que la qualité, elle est partout, déjà dans le lieu, l'accueil, sympa, agréable. Habiter un lieu, c'est se sentir bien, quoi.
Complètement, et vraiment, ce lieu permet ça. Dès que les familles passent la porte, elles sont en vacances, même si elles sont à quelques kilomètres de chez elles. On souhaitait un lieu qui soit à proximité pour des familles qui n'ont pas toujours des moyens de locomotion ou pour lesquelles les frais de déplacement auraient été trop importants à porter. Et donc là, ce lieu, il permet vraiment ça. Et il a aussi la spécificité de pouvoir proposer à la fois des espaces collectifs, l'extérieur, le séjour, la cuisine, mais aussi sous forme de suite et de duplex, des espaces plus intimes où les familles peuvent être sur les temps de sommeil et autres, vraiment seules. Donc des temps où les familles alternent ces deux espaces et avec une équipe en continu qui est présente pour soutenir les familles, leur permettre de se reposer sur certains temps et prendre un peu en charge les enfants, et surtout leur proposer des temps de collectif, des temps d'animation qui feront qu'à l'issue du week-end, les familles vont s'être ressourcées et auront passé un moment agréable.
Une question, comment vous vous êtes retrouvées toutes les deux, Stéphanie et Véronique, pour la création d'un projet comme ça, là, vous êtes rencontrées dans un colloque, vous
c'est
étiez des amis.
C'est une longue histoire.
Vous étiez de vieilles complices, comme on dit.
Pas du tout.
Pas du tout. Vous vous êtes croisées dans la rue.
Non, on a travaillé ensemble à l'aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Et moi, je suis arrivée, on va dire, sur une deuxième partie de carrière. Stéphanie venait juste d'être diplômée. Et je me suis retrouvée dans un bureau où j'avais Stéphanie dans mon dos. On était dos à dos. Et de ce dos à dos, on a fini par retrouver autour d'une même table et on a travaillé 7 ans ensemble. Et dès qu'on avait un coup de mou, on se disait un jour on va
créer quelque chose. Alors, Vous dites, en début de cet entretien, vous avez dit, oui, nous, on préfère rester petit, c'est l'entrepreneuriat social, éthique et solidaire, mais on ne veut pas trop de grandir, mais quand même, lieu de vie à Muret, vous allez à Seis, vous avez un petit centre de formation, des séjours singuliers enfants parents à Cugnon. Si ça continue comme ça, vous allez devenir... moyen, petit, moyen et gros, quoi. Enfin, les projets, ça vient. Vous continuez à vous développer, Stéphanie?
Non, là, vraiment, l'objectif, c'est de rester avec les activités là, qu'on vient de vous présenter, voilà. De les développer, de les faire
et les consolider.
Tourner voilà, correctement. Voilà. Mais c'est tout.
Mais c'est, ça dès le départ, on avait ces trois axes. On a eu du mal à choisir. On avait envie, on est un peu touche à tout. Et c'est pour ça qu'on veut être dans du petit pour pouvoir faire ces trois activités, mais en restant quand même très en proximité et en ayant, en étant à la manœuvre de ce qui se passe.
On peut être excellent en étant petit, hein. Vous le savez.
C'est ce qu'on cherche à faire.
Il peut y avoir des leaders, y compris dans le monde technologique, on dit, voilà, dans l'innovation sociale, on peut faire de la qualité avec une dizaine de salariés, c'est pas interdit, voilà, ces projets-là. Et donc, le bilan personnel, je veux dire, aucun regret?
Non.
Jamais?
Non. C'est vraiment une belle aventure, voilà. D'entreprendre, c'est pas simple tous les jours. Ça, on a fait des concessions, hein, mais...
Bah, j'imagine financière, pour les salaires au départ.
Premièrement,
c'est ça.
Et après, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Mais non, regrette pas.
Mais revenir au salariat, non, pas question, par exemple.
Non.
Ah, vous êtes fermes toutes les deux sur cette question.
Oui, là, ça fonctionne. On n'est pas du tout dans des idées de changer. Après, ouais. Je crois qu'on y trouve notre compte.
Et est-ce que vous témoignez de votre création dans d'autres lieux, par exemple dans les centres de formation, dans les associations, les sociétés, pourrait-on dire, dans les sociétés savantes
L'an dernier, on est intervenu sur les formations de CAFDES et de Café Ruisse.
Oui.
Pour parler, pour témoigner.
Pour dire c'est possible.
Tout à fait.
La création est possible,
voilà,
dans ce secteur.
Tout à fait. Et d'ailleurs, à l'issue, on a des gens qui viennent et qui demandent conseils, qui demandent comment on s'est. Oui.
Et on a fait des partenariats aussi avec des personnes qu'on a rencontrées dans ce cadre-là, pour les séjours notamment.
Et ensuite, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a été quand même accompagné tout au long de la création par le parcours adresse. Et donc là aussi, on a eu l'occasion d'aller témoigner, parler de notre expérience. Encore dernièrement, on était mise en avant là pour la journée des droits des femmes. Donc ça, c'est des endroits où nous, on ne peut dire que des choses positives, à la fois la réalité du travail énorme que ça représente, des prises de risques financières, effectivement, en premier lieu. On s'était engagé dans l'aventure en disant notre limite, c'est que nos finances ne soient pas engagées. Bon, elles ont été très vite engagées parce qu'autrement, très concrètement, on a loué des maisons à notre nom, avant d'avoir même... un seul centime du département.
La première facture.
Voire même l'autorisation de fonctionner.
Vous étiez déjà engagé.
Mais oui, parce que ça ne peut pas attendre. Et c'est là où je pense qu'on a notre capacité, c'est qu'on se connaît bien, qu'on est très différentes l'une de l'autre, mais que sur la prise de décision, ça va très vite entre nous deux.
Alors, je vais vous poser une question genrée, mais ne m'en veuillez pas. Vous le savez, je prends toutes les précautions oratoires. Est-ce que les créatrices femmes sont différentes des créateurs hommes?
Je ne sais pas.
Vous, ça...
Peut-être qu'il y a des
Est-ce que vous êtes des dirigeantes différentes, des dirigeants? Est-ce que autour de vous, les gens en parlent? Est-ce que vous disent... y compris vos propres salariés, quoi.
Nos propres salariés, c'est sûr qu'ils nous disent plutôt qu'ils ont des conditions de travail...
qu'ils
n'ont jamais connu, oui, effectivement. Mais bon, ça, je ne pense pas que ça ne tient pas
à ce qu'on soit des femmes.
Genre, je pense que c'est plus une difficulté. Enfin, Stéphanie a encore des enfants petits, moi, ce n'est plus le cas, mais on voit bien que ça, c'est une vraie difficulté. Enfin, une difficulté. C'est un vrai bonheur, mais ça reste quand même... il y a une organisation à prendre en compte quand on est des enfants petits, qui souvent porte plus du côté des femmes. Donc, je dirais que c'est plus... un désavantage. En tout cas, il y a cette difficulté, effectivement, qu'il faut pouvoir dépasser. Après, au niveau de la banque, en tant qu'interlocutrice, nulle part on s'est sentie jugée en tant que femme. C'est sur notre expertise que ça s'est joué.
Sur votre expertise.
Oui. Oui. Et, voilà. C'est ce qu'on met en avant. Notre compétence, notre expertise sur le secteur.
Quel parcours, Stéphanie, après votre diplôme à la prestigieuse université toulousaine, est-ce que passer par la case master, est-ce que ça vous a donné envie de créer ou à quel Bien moment il y a Bien eu le déclic?
Bien sûr que l'année de formation, ça engage à ça parce que ça amène quand même à avoir des compétences que je n'avais pas avant de faire la formation de master. Et c'est ce qui nous a lancé aussi à se dire, bon, mais maintenant, on a les Véronique à un café Ruiz. Moi, j'avais un master 2. Il y avait la possibilité de se dire, bon, mais on se lance. Après, on apprend et on apprend beaucoup de choses et on met en pratique ce qu'on a appris pendant le master, effectivement. Mais on revoit, voilà, des formateurs, des intervenants sur le master. On s'appuie aussi sur ça. Enfin, moi, je me suis beaucoup appuyée. On a commencé avec le cabinet comptable avec Monsieur L'Esprit, qui était un des intervenants du master. Et c'est intéressant d'être aussi, enfin voilà, de pouvoir se raccrocher à des personnes.
Oui, des personnes de confiance qui vous aident.
Bien sûr, bien sûr. Et puis qui ont un savoir, une connaissance. Et ça, ça nous. Enfin voilà, moi je crois que ça a été vraiment très important.
Si c'est à refaire, vous le referiez?
Bien sûr. Ah oui, de suite. Oui.
On arrive au terme de notre émission Sentinelle Humanité à Esprit Occitanie. Merci beaucoup pour
merci
cet échange.
À vous de l'invitation.
Vous êtes
merci à vous.
Enthousiaste, plein de vie dans ce caliva, dans cette belle cabane qui accueille des jeunes, des familles, des futurs formés. Bonne vie à Caliva et à très bientôt. Et merci d'avoir accepté mon invitation à Esprit Occitanie Sentinelle d'Humanité. À très bientôt.
Merci.